Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Alors, une réponse très prosaïque serait me lever et aller au travail le matin. Mais plus globalement, mon intérêt pour la compréhension du monde, avec toute la conflictualité que ça implique. Mais ouais, je dirais que c'est ça, ma curiosité et mon envie de comprendre pourquoi les humains se comportent comme ça entre eux. Et déceler les sous-jacents du fonctionnement des sociétés humaines humblement, parce que je prétends pas construire de théorie, mais ouais, je pense que c'est ça, une curiosité du monde social.
Bonjour, pour ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, nous accompagnons dans la rue Mathieu Trichet, doctorant en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Mathieu Trichet est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Gilets jaunes et transition écologique, adhésion ou rejet ?» Vous êtes bien doctorant en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord.
C'est ça, absolument.
Et alors le parcours ?
Alors le parcours, pour arriver jusque-là, c'est un parcours académique assez normal et linéaire, on va dire. J'ai fait une partie de mes études à Grenoble en classe préparatoire économique. Donc j'ai un peu pu rôder ma compréhension et mon intérêt pour la discipline. Ensuite, j'ai fait une pige à Nantes pendant quelques années, dans une école de management. Et je me suis repenti ensuite en réintégrant la fac publique en région parisienne. Parce que, voilà, la destinée qui m'était offerte à l'issue de ces études-là me convenait pas du tout. Tant sur le plan très personnel que, on va dire, sur le plan éthique et moral, même si les deux sont liés. Donc j'ai décidé de retourner à la fac dans la perspective de faire une thèse en économie parce que j'avais cultivé un intérêt assez important pour cette discipline. Ça m'a emmené sur les bancs de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Alors j'ai choisi cette université parce qu'elle dispense un enseignement de l'économie qu'on dit hétérodoxe, qui s'éloigne des compréhensions, on va dire, classiques de l'économie. C'était un point important pour moi parce que c'était en phase avec ma compréhension des phénomènes économiques. Et on va dire que le cadre théorique qu'elle permettait d'acquérir me plaisait davantage, en fait.
Vous êtes proche de vos collègues atterrés ?
Personnellement, pas vraiment, mais il se trouve que le directeur du master, donc, qui s'appelle Danny Lang, fait partie du collectif des économistes atterrés. Et effectivement, les économistes atterrés, pour beaucoup, sont du courant qui s'appelle courant post-keynésien. Bon, alors, je me ferai sûrement tirer les oreilles par certains en disant ça. Mais donc, sont des courants hétérodoxes, justement parce que, comme le nom du collectif l'indique et comme leur proposition, on va dire, citoyenne de comprendre et décrypter l'économie l'énonce, il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre les phénomènes économiques et les relations économiques. Il y a des façons qui mettent plus ou moins au centre de la réflexion la conflictualité, les rapports de force. Par exemple, un rapport de force évident qui vient, c'est le rapport capital-travail, mais pas que. Voilà, c'est ce cadre théorique-là qui m'a beaucoup plu et qui m'a attiré, avec la perspective, encore une fois, de pouvoir faire une thèse dans ces dimensions-là. Et on va dire qu'en fil rouge, et de manière un peu, pas vraiment opportuniste, mais on va dire que c'est arrivé avec l'évolution un peu de l'intérêt social pour la question écologique. Cette question-là est devenue centrale, et donc j'ai voulu articuler plus largement la question économique avec la question environnementale, parce que il me semble que c'est le défi le plus important, en tout cas un des défis les plus importants auxquels on doit faire face. Et je pense que l'économie hétérodoxe a une carte fondamentale à jouer, puisqu'elle nous permet entre autres de penser l'économie, alors, soit en dehors du capitalisme, soit de comprendre, de formuler une critique, alors après plus ou moins sèche en fonction des courants, mais une critique certaine du fonctionnement du système capitaliste et de son incompatibilité avec la survie de l'environnement, en fait. Et donc, tout ça mis bout à bout m'a amené à vouloir embrasser, entre guillemets, une carrière, c'est beaucoup dire, mais en tout cas de débuter ma thèse à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et avant ça, de consacrer mon mémoire de recherche à la question des gilets jaunes et leur relation à la transition écologique, qui est le point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui.
« Je suis en compagnie de Mathieu Trichet, qui va intervenir dans le cadre de l'UMA Café de Nantes. Le titre, Gilet jaune et transition écologique, adhésion ou rejet. Alors déjà, est-ce que vous avez, vous, une définition du gilet jaune?
Mouvement social, mouvement de colère, mal maîtrisé. Si on fait une comparaison par rapport au mouvement des agriculteurs, là on est sur quelque chose qui est bien encadré par une fédération, par des syndicats d'agriculteurs, et par un métier. Même si l'agriculture, il y a peut-être pas 50, 100 métiers différents dans l'agriculture. Alors que les gilets jaunes, c'était tous azimuts, sans encadrement, sans rien, sans règles. J'aime bien les règles, moi. Sans règles et effectivement difficilement encadrables.
Je suis complètement d'accord avec ce que dit mon mari.
On peut dire que c'était un mouvement social qui a eu cours entre la fin de l'année 2018 et qui s'est arrêté au début des années 2020, plus ou moins contre leur gré avec le Covid. Et qui était un mouvement de revendication, qui portait une multitude de revendications, mais donc effectivement un mouvement de colère, ça c'est sûr, contre un certain nombre de choses. Et j'ai envie de dire que la meilleure définition des Gilets jaunes, c'est de dire que c'est un mouvement social qui rassemblait les gens qui se revendiquaient Gilets jaunes. Et comme disaient monsieur et madame, le non-encadrement du mouvement était absolument volontaire, parce qu'en fait c'était un mouvement qui était d'une certaine manière contre les formes traditionnelles de représentation, qui considéraient comme pas efficaces, notamment parce qu'ils considéraient que les formes de représentation traditionnelles n'étaient pas en mesure de, d'une part, faire valoir leurs intérêts et ensuite d'améliorer leurs conditions en fait, d'existence, d'une certaine manière. Sans parler des formes encore plus traditionnelles, entre guillemets, de gouvernement, qui rejetaient fondamentalement parce qu'ils considéraient que ils n'étaient pas du tout en fait, en phase avec les intérêts du peuple. Et donc c'est cette position vis-à-vis des formes de représentation traditionnelles qui a vraiment structuré la manière dont s'est exprimé le mouvement de rejet des structures d'encadrement classiques.
Vous faites le lien entre donc, le mouvement des Gilets jaunes et puis la transition écologique?
Absolument pas. Absolument pas. Je vois pas le rapport, franchement.
Alors c'est une réaction tout à fait normale, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le cadrage, on va dire, médiatique et politique du mouvement, c'est pas du tout porté sur ces questions-là. Il faut quand même dire aussi que il est vrai que c'était pas une revendication principale du mouvement, mais quand même, quand on en fait regarde comment les revendications du mouvement ont évolué et quelles revendications ils formulaient eux-mêmes, et aussi quand on allait leur demander comment ils se positionnaient sur ces enjeux, en fait, on se rendait compte qu'eux, ils articulaient, on va dire, les questions plus, on va dire, de mode de vie et de niveau de vie, et aussi de structure de démocratie, etc., avec les questions environnementales. Il est vrai que l'élément déclencheur du mouvement, ça a été la hausse de cette taxe carbone, mais en fait, quand on regarde plus en détail quelle était leur position, soit sur la taxe carbone, soit plus généralement sur les politiques environnementales, il n'y avait pas du tout un rejet des politiques environnementales, mais il y avait une demande en fait d'équité et de justice environnementale sur, d'une part, le partage du fardeau de la transition, parce que eux, ils se sentaient lésés à cause de cette hausse de la taxe carbone. Ils percevaient bien que, du fait de leur mode de vie et notamment du manque d'alternatives, bon, par exemple, si on prend l'exemple très basique de la voiture, ils ne pouvaient pas faire autrement, qu'ils étaient un peu pieds et poings liés avec ça. Et du fait de leurs faibles revenus, ils allaient subir davantage que des personnes plus aisées.
Ce que je veux dire aussi, c'est que si le carburant était reparti à 1,20€, ils auraient recommencé à rouler comme des malades. Et je suis pas sûr que autour des ronds-points avec les palettes et une grosse culture de ce qu'est l'écologie, quoi. Parce qu'il faut quand même, tu veux connaître quand même malgré tout. Je suis pas sûr que c'était la catégorie socio-professionnelle qui était la mieux adaptée à l'écologie, parce que l'écologie se situe un petit peu un cran au-dessus, sans vouloir faire une hiérarchie. Je pense qu'ils étaient un peu loin de tout ça. Leur préoccupation, c'était de payer le carburant moins cher, pouvoir continuer à les bosser.
C'est sûr que leur revendication centrale n'était pas forcément axée sur les questions environnementales, mais quand on regarde au-delà, encore une fois, en fait, de ce qui a été relaté de leurs propos, quand on regarde ce qu'ils demandaient vraiment, donc il y a eu tout un tas de procédés pour capter leurs revendications. Donc il y a eu des cahiers de doléances dans les mairies. Ils ont organisé eux-mêmes une consultation en ligne pour récolter en fait ce que demandaient les Gilets jaunes sur différents sujets, dont les sujets liés à l'environnement. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'était aussi une préoccupation importante pour eux, notamment parce que en fait, cette ruralité qui composait, alors pas tous les Gilets jaunes, parce qu'en fait, les enquêtes sociologiques nous disent qu'il y avait certes des ruraux, mais aussi beaucoup de périurbains dans des villes petites à moyennes. Et en fait, notamment les ruraux, c'est finalement un peu ceux qui sont les derniers un peu en contact avec la nature en France. Et c'est la même chose dans tous les pays développés, là où nous, on n'a plus de population indigène qui vit par exemple dans les forêts amazoniennes. Et donc en fait, ils se rendent bien compte de la dégradation de la nature pour différentes raisons. Et notamment, il y avait une emphase assez forte sur les questions agricoles, aussi parce qu'il y avait un certain nombre d'agriculteurs dans le mouvement. Et donc en fait, cette relation permanente avec l'environnement créait chez eux une véritable appétence pour un modèle plus protecteur de l'environnement. Et la deuxième chose aussi, c'est que certes, cette question de la voiture était centrale dans le mouvement, mais en fait, quand on regarde ce qu'il demandait, en fait, c'était la possibilité d'avoir des alternatives. Et une critique qui est revenue de manière récurrente, c'était par exemple la suppression des lignes de train et des petites lignes de train qui leur permettaient avant de se déplacer sans avoir recours à la voiture. Et pareil pour les réseaux de transport en commun. Quand dans les endroits ruraux, il y a un bus qui passe le matin et le soir, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc il y avait cette question de l'alternative et finalement, voilà, comment peut-on faire ? C'est un mouvement extrêmement hétérogène, avec une représentation très vaste, notamment de CSP. Donc en fait, au fur et à mesure que le mouvement perdurait, il y avait des gens qui se greffaient avec des gens de tout horizon, qui cherchaient différentes choses dans le mouvement, pas forcément que des revendications, on va dire, matérielles. Mais voilà.
Après, ce que j'ai pas trop aimé en plus dans les Gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques personnes qui sont ressorties du lot un petit peu. Tous ces gens-là ont été emmerdés parce que ce mouvement ne voulait pas peut-être de... Ils ne voulaient pas de représentants. Oui. Ça m'a gêné quelque part, parce que après, à cause de ça, ils se sont laissés dépasser par les Black Blocs, et ça c'est contre-productif. Parce qu'on leur a attribué des choses négatives qui n'étaient pas vraiment de leur fait. Quoi. Ils se sont laissés déborder.
Je ne saurais pas dire si c'est du fait de l'absence de représentation.
Il n'y avait pas d'encadrement. Et on sait très bien que même dans une entreprise, quand il n'y a pas d'encadrement, ça ne marche pas. Il faut aller dans un système pyramidal, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un chef, un sous-chef, et puis qu'à un moment temps, quand les décisions sont prises, tout le monde s'aligne. Quoi. Autrement, c'est le bordel. Quoi. Sans pour autant prêcher pour la Russie ou la Chine, on est bien d'accord. Hein.
Le grand écart est grand.
Non, mais c'est au cas où vous l'auriez fait.
Non, pas vraiment. Alors, on a quand même vu un certain nombre de mouvements sociaux récents se faire fortement réprimer, malgré l'encadrement. Malgré l'encadrement certain du mouvement, on pense notamment dernièrement au mouvement contre la réforme des retraites.
Oui.
Donc je pense que c'est pas une garantie, ces temps récents de on va dire de qui est de d'être bien reçu par les autorités, qu'on soit encadré ou non. Et je pense qu'en fait, il faut, sur cette question de représentation et de tête de gondole, on va dire, je pense qu'il faut finalement en fait un peu accepter que c'était vraiment structurel au sein du mouvement, qu'ils n'avaient pas envie d'avoir deux figures du mouvement. Parce que, en fait, ce que ça faisait résonner chez eux, finalement, en fait, la représentation classique telle qu'on l'expérimente au quotidien...
C'est un choix qu'ils ont fait, très bien, mais il faut en assumer les conséquences derrière.
Et par ailleurs, ils ont fait un certain nombre de grands rassemblements où ils essayaient de consolider leurs revendications et ensuite les transmettre au pouvoir politique. Donc ils ont fait des grandes réunions, dont le premier, c'était l'appel de Commercy fin janvier, où ils avaient finalement fait un espèce d'appel unitaire avec des revendications pour la justice sociale, la justice environnementale, la répartition des richesses.
Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites.
Je suis donc Mathieu Trichet, comme j'ai été introduit. Je suis doctorant à Paris, à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et j'ai réalisé il y a quelques années, deux ans, un mémoire de recherche sur la relation des Gilets jaunes à la transition écologique.
Ah oui.
Et donc j'étais gracieusement invité par l'Huma Café à intervenir au lieu unique pour présenter les résultats de mes travaux. Mm-hmm. Et donc on se balade.
Respect.
Merci.
Moi qui suis autodidacte, mais qui ai eu un très beau parcours professionnel, je suis toujours, humble. Et devant des parcours comme ça, c'est bien, bravo. Alors après,
merci.
c'est qu'est-ce que je veux faire de tout ça, quoi. C'est ça le truc, c'est avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas la question, non ?
On va dire de manière très pragmatique, qu'est-ce que je vais faire ? Essayer d'être dans la recherche plus tard.
Ah, c'est ça, voilà. Ouais.
Et après, de manière plus, on va dire générale et englobante, essayer d'apporter un petit coin de lumière sur... des mécanismes, des événements, des fonctionnements du monde pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice de la connaissance, on va dire.
Quand il y a de l'intelligence et du savoir, ça va tout de suite mieux. C'est pour ça que la culture a toute son importance. Hein. La culture, on l'a complètement négligée. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se posent la question à quoi ça sert, quoi. Ben, la culture, ça sert à avoir les deux pieds sur terre, quoi, quand même. Hein, et à essayer de comprendre, lire, comprendre ce qui se passe, pour avoir des points de vue différents. Hein. Mais... la culture est essentielle. à mon avis.
Ce sera un bon conseiller pour un ministre de l'économie, Mathieu Trichet.
J'allais dire ça. Ça dépendra de quel gouvernement.
Et puis, je refuserai jusqu'au moins 2027.
Les bons conseillers sont ceux qui ont les deux pieds sur terre et qui n'oublient pas d'où ils viennent.
Vous êtes veste rouge, vous n'êtes pas gilet.
Alors le rouge, non, pas vraiment non plus, mais c'est pour faire diversion.
De manière très concrète, comment j'ai fait pour travailler sur ça? Comment j'en suis venu à ça? En fait, c'était un peu un constat lointain du traitement, on va dire, médiatique du mouvement, qui avait été quand même assez peu noblement retranscrit dans, principalement dans la presse, on va dire, mainstream, mais c'est quand même un peu eux les faiseurs d'opinion. Puis un intérêt croissant, on va dire, plus personnel pour les questions qui lient transition écologique et justice sociale, donc ce qu'on peut appeler transition juste. Avec un premier pied dans ces questions-là autour des mouvements pour la justice environnementale dans les pays du Sud. Donc, par exemple, les luttes des peuples autochtones, que ce soit au Brésil ou dans les pays d'Afrique tropicale, contre soit les dégradations de leur environnement proche, soit carrément leur expropriation des terres. Donc, c'est un peu comme ça que ça est né. Et au fur et à mesure, la convergence des questions de justice environnementale dans nos pays développés, et plus particulièrement en France, a fait un peu se rejoindre ces deux éléments. Parce que finalement, en fait, comme le point de départ du mouvement des Gilets jaunes, c'était donc justement cette taxe carbone, que du coup, ils se sont fait tout de suite cribler et cadrer comme des pollueurs anti-écolo primaires, je me suis dit, en fait, certes, mais qu'est-ce qu'il en est plus spécifiquement dans les faits? Et donc, je me suis dit, comment on va répondre à cette question? Ben, on va s'intéresser à ce que les Gilets jaunes disent eux-mêmes. Sauf que, contrainte matérielle faisant, j'avais 4 mois. Et pas de financement particulier, donc je pouvais pas partir 6 mois sur les routes de France pour tendre le micro à des gilets jaunes. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je récupère des données qui avaient déjà été produites par les gilets jaunes eux-mêmes. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux cahiers de doléances qui avaient été mis en place dans certaines mairies. Mais c'était encore un peu inaccessible, donc je me suis intéressé au vrai débat. Donc le vrai débat, c'est une initiative qui a été mise en place par un groupe de gilets jaunes en réponse, comme le nom l'indique, au grand débat du président, qu'il avait annoncé comme une solution à la crise démocratique du mouvement en décembre, et puis qu'il a fait se réaliser, on va dire, en janvier. Donc les Gilets jaunes ont dit, nous, le grand débat de Macron, on n'en veut pas. Donc ils ont mis sur pied une plateforme en ligne, qui s'appelait Le Vrai Débat, dans laquelle on pouvait contribuer sur un certain nombre de thèmes, il y avait 9 thèmes de mémoire, dont un thème sur la transition environnementale, qui regroupait écologie, transition juste, alimentation et transport. Et donc le fonctionnement de la plateforme était en fait quiconque pouvait se créer un compte et formuler des propositions politiques autour de ces thèmes. Et après les gens pouvaient voter pour, contre, etc. Donc voilà, c'était une forme assez ouverte et en plus simple de recension de la parole des membres du mouvement. Ou en tout cas de leurs sympathisants, parce que c'est vrai qu'un problème qui s'est posé, c'est qu'on ne pouvait pas contrôler si les personnes qui contribuaient étaient effectivement gilets jaunes ou pas, mais bon, on peut quand même, je pense, raisonnablement penser que les principaux intéressés par cette démarche du vrai débat, c'était principalement des gilets jaunes. De cette plateforme du vrai débat, en fait, j'ai récupéré donc toutes les contributions et propositions politiques des contributeurs et je les ai lues intégralement. Donc, il y en avait 2300, 2600, je ne sais plus. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse thématique. J'ai pris chaque contribution et j'ai essayé de sortir leurs grandes caractéristiques en faisant des thèmes génériques. Et c'est à chaque fois une danse entre essayer de monter en généralité et ne pas perdre l'essence de la contribution. Donc en fait, on fait des allers-retours entre ces deux objectifs qui sont un peu ambivalents et en fait, on se construit une caractérisation du corpus pour faire émerger en fait les thèmes principaux qui étaient mentionnés par les contributeurs. Et ensuite, on essaie d'analyser ça avec une lentille qui est aussi cadrée par un cadre théorique qui est celui, par exemple, de la justice environnementale et des inégalités environnementales. En fait, on essaie d'interroger les contributions par rapport à ce cadre-là. Donc ça nous amène au résultat et en fait, on se rend compte que les contributeurs étaient conscients qu'ils souffraient d'une inégalité environnementale sur plusieurs aspects, parce que l'inégalité du fardeau de la transition, c'en est une. Une autre, c'est l'absence de processus démocratique dans la construction des politiques environnementales. Et un troisième aspect, c'est les contributeurs, et alors là, ça s'étend plus globalement aux Gilets jaunes, à mon avis, c'est qu'ils avaient bien conscience qu'il y a une inégalité dans les effets des modes de vie sur l'environnement, et ils avaient bien conscience que les plus riches et les entreprises, donc souvent il y avait des critiques des multinationales qui revenaient dans le corpus, étaient davantage responsables que eux de la transition, et donc ils demandaient à ce qu'il y ait une juste répartition et un principe de pollueur-payeur qui s'applique pour sanctionner en fait les vrais destructeurs de nature. Et donc voilà, c'est comme ça que par exemple un cadre théorique comme celui de la justice environnementale et le corollaire qui sont les inégalités environnementales nous permettent de mieux interpréter des données qui sont un peu brutes de prime abord.
Peut-être que je suis très rigide. J'ai pas l'impression que c'est une recherche d'économiste, en fait. Je vois pas le lien, parce que j'imaginais que, par exemple, on peut avoir une recherche sur le coût d'une transition.
Oui. Je comprends. Il faut dire que j'ai pris quelques libertés au moment du choix du sujet. Néanmoins, finalement, l'économie est une discipline assez souple. Et alors, certes, elle a dans son, des questions d'argent, pour faire simple. Mais plus largement, elle peut aussi s'intéresser à l'articulation entre des questions d'argent et des questions plus sociales. Et notamment sur les questions liées à l'environnement, il y a quand même un champ assez important de ce qui s'appelle l'économie écologique, donc qui est en fait le pan de l'économie qui s'intéresse aux questions environnementales, qui a des approches des intérêts très proches de ce qu'on imagine que pourrait être par exemple un travail de sociologie, mais qui a quand même un intérêt important pour les questions économiques au sens très concret en fait. Donc, par exemple, quelles sont les conditions matérielles des gens, déterminées par les structures économiques, entre autres. Et en fait, en partant de ces questions-là, comment s'articulent les questions environnementales et écologiques. Donc par exemple, comment les luttes environnementales dans les pays du Sud, donc par exemple, comme je mentionnais tout à l'heure, des peuples autochtones pour la préservation de l'environnement, s'articulent aussi avec des luttes de classe et dans certains cas, quasiment dans la totalité des cas, c'est en fait des luttes de rapport de force classique du capitalisme, parce que par exemple, si c'est un peuple autochtone qui lutte contre la destruction de son environnement naturel par une multinationale, on est dans un conflit de classe. Donc c'est pour ça que ces questions-là intéressent aussi la science économique. Alors encore une fois, quand on pense à la science économique dans son fonctionnement et dans son cadre standard, on n'a pas forcément ça en tête, mais c'est là que les hétérodoxies entrent en jeu et peuvent nous amener des nouvelles lunettes pour regarder le monde et des nouveaux outils et une nouvelle manière de comprendre les choses et plus spécifiquement les conflits. Donc c'était quand même un mémoire d'économie au sens, on va dire, de l'économie écologique et plus spécifiquement de la socio-économie environnementale. Et c'était en fait d'interroger la relation qui existe entre finalement les Gilets jaunes qui sont aussi quand même une émanation des classes populaires en France et les questions de transition. Et comme quand on pense aux classes populaires et qu'on parle de classes populaires, il y a quand même une dimension matérielle assez importante, on rejoint encore une fois cet agenda de recherche, entre guillemets, ce programme de recherche qui interroge ces relations-là. Et donc on en arrive à faire une certaine forme d'économie. C'est comme ça qu'on peut, un peu tordre le terme économie et faire entrer dedans une plus grande diversité de choses que le simple coût de la transition, même si c'est une question fondamentale à laquelle s'intéressent des tas d'autres économistes, même parmi les fameux hétérodoxes.
Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les frontières entre les disciplines sont perméables.
Absolument. Oui, je pense que... Et c'est aussi là, entre guillemets, toute la force des hétérodoxies en économie plus spécifiquement, c'est cette porosité, cet intérêt pour la multidisciplinarité, la transdisciplinarité, et vraiment essayer d'intégrer des réflexions qui viennent d'autres disciplines dans l'interprétation des phénomènes. Donc, les courants institutionnalistes, par exemple, qui incorporent des résultats d'autres sciences sociales et humaines, je donne le courant institutionnaliste, mais toutes les hétérodoxies s'intéressent de près aux résultats qui sont amenés par d'autres sciences humaines, que ce soit la sociologie, l'histoire bien évidemment, les sciences politiques. Donc tout ce mélange-là, finalement, renforce les grilles d'analyse et la compréhension des phénomènes. Donc je pense que c'est fondamental d'avoir une très grande ouverture d'esprit évidemment, mais sur un plan plus scientifique, voilà, d'absorber des résultats qui viennent d'autres disciplines. Et ça a été beaucoup le cas dans le cadre de mon travail, puisque évidemment que je me suis beaucoup intéressé aux résultats des travaux de sociologie sur le mouvement, d'une part pour caractériser les membres du mouvement, puisque c'était un élément fondamental dans l'analyse que je voulais faire, et d'autre part plus spécifiquement sur la question de la transition écologique, des travaux qui venaient, alors certes principalement sociologues, mais pas que, et qui s'intéressaient, voilà, à la compréhension par les membres des enjeux environnementaux.
Gilets jaunes et transition écologique, deux points. Adhésion ou rejet, il y a une réponse?
Bon, une réponse évidente, c'est pas rejet, c'est sûr.
Et pas adhésion non plus totale.
Encore une fois, une caractéristique essentielle du mouvement, c'est son hétérogénéité. C'est un peu difficile de tirer des conclusions générales. Mais il y a une volonté de une grande partie des membres de mettre en place les politiques nécessaires à assurer la protection de l'environnement et la conservation de l'environnement. Alors ça passe par différents niveaux, on va dire, de politisation des réponses apportées. Ça va des réponses vraiment très individuelles et, on va dire, individualistes à des réponses beaucoup plus structurelles et donc des compréhensions beaucoup plus englobantes de la relation entre système économique, rôle du politique et questions environnementales. Donc voilà, il y a quand même une diversité des points de vue. Mais je pense qu'on peut dire globalement qu'il y a une adhésion qui se décline selon différentes sensibilités et qui se matérialise par des revendications de différentes natures, encore une fois, qui sont plus ou moins politisées. Mais en tout cas, il y a un intérêt très fort pour les questions environnementales et les enquêtes qui ont été faites auprès des Gilets jaunes montrent qu'il y a, en tout cas, pas plus de désamour pour les questions liées à la transition que dans la population générale. Le cadrage qui a beaucoup été fait des Gilets jaunes comme hostiles à l'environnement, et ça rejoint un peu ce que nous disait un intervenant tout à l'heure, en fait, était erroné ou volontairement trompeur. Mais il serait faux de dire que les Gilets jaunes rejettent l'écologie. Et je pense qu'il y a une demande d'écologie, une demande de transition, mais qui doit se faire dans un certain cadre, selon certaines modalités, qui assure la justice de la transition, qui répartit le fardeau et en même temps qui assure finalement aux gens, quels qu'ils soient, des conditions matérielles dignes de vivre en fait. Donc c'est comme ça que ça s'articule en fait avec les revendications plus générales du mouvement. Si on s'intéresse à des récits plus personnels de membres du mouvement, c'est vrai qu'il revient souvent cette idée que en fait, ils se concentraient sur ce qui les rassemblait et vraiment ils évitaient les sujets qui pouvaient les diviser. Je pense que c'est ce qui a aussi fait la force du mouvement au sens de ce qui a garanti son unité et sa permanence dans le temps. C'est qu'en fait, ils se sont concentrés sur les aspects qui les rassemblaient dès le départ. Et en même temps, au fil de l'évolution du mouvement, il y a eu tout un tas de nouveaux profils qui ont rejoint le mouvement, avec des passifs militants variés, avec des caractéristiques socio-économiques différentes, avec des objectifs politiques différents. Mais en fait, c'est cette variété qui a fait évoluer le mouvement et qui a complexifié les revendications portées par le mouvement. Et encore une fois, si on s'en remet finalement un peu au seul document qui fait foi quand on parle des revendications des Gilets jaunes, qui sont en fait les résultats des différentes assemblées, donc ce qu'ils appelaient des assemblées, j'en ai déjà parlé quand je parlais de l'appel de Commercy, mais donc en fait, qui sont censés donc représenter ce qui fait consensus au sein du mouvement et des différentes déclinaisons locales du mouvement, c'est un intérêt fort et une demande, tant pour la transition que pour une transition juste.
Merci à Mathieu Trichet, doctorant en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et merci à
Hervé
et
Michel
pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, réalisé avec la complicité de l'Huma Café de Nantes.
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, aventure d'interview en marchant dans la rue ?
Je retiens la discussion qu'on a eue avec Hervé et sa femme Michel. Alors, c'était très intéressant. C'est voilà, la première fois que je discutais de cette manière avec des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et que je ne reverrai jamais. Je pense que la présence du micro a aidé à la civilité de la discussion, mais quand même. Ouais, je pense que c'était un temps fort de ce moment, et plus globalement, une discussion très intéressante, et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail, et de, j'espère avoir apporté quelques éléments intéressants sur le sujet gilets jaunes et transition environnementale, et plus généralement, classe populaire et écologie.